L'art d'être grand-père. Première partie. À Guernesey. L'exilé satisfait. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père. De Victor Hugo. Première partie. À Guernesey. L'exilé satisfait. Solitude. Silence. Oh, le désert me tente. L'âme s'apaise là, sévèrement contente. Là, dans ne sait quelle ombre, on se sent l'éclaireur. Je vais dans les forêts chercher la vague horreur. La sauvage épaisseur des branches me procure une sorte de joie et d'épouvante obscure. Et j'y trouve un oubli presque égal au tombeau. Mais je ne m'éteins pas. On peut rester flambeau dans l'ombre, et, sous le ciel, sous la crypte sacrée, seul, frissonner au vent profond de l'empyrée. Rien n'est diminué dans l'homme pour avoir jeté la sonde au fond ténébreux du devoir. Qui voit de haut, voit bien. Qui voit de loin voit juste. La conscience sait qu'une croissance auguste est possible pour elle, et va sur les hauts lieux rayonner et grandir, loin du monde oublieux. Donc je vais au désert, mais sans quitter le monde. Parce qu'un songeur vient, dans la forêt profonde ou sur l'escarpement des falaises, s'asseoir, tranquille et méditant l'immensité du soir, il ne s'isole point de la terre où nous sommes. Ne sentez-vous donc pas qu'ayant vu beaucoup d'hommes, on a besoin de fuir sous les arbres épais? Et que toutes les soifs de vérité, de paix, d'équité, de raison et de lumière augmentent au fond d'une âme après tant de choses qui mentent? Mes frères ont toujours tout mon cœur, et, lointain mais présent, je regarde et juge le destin. Je tiens, pour compléter l'âme humaine ébauchée, l'urne de la pitié sur les peuples penchée. Je la vide sans cesse, et je l'emplis toujours. Mais je prends pour abri l'ombre des grands bois sourds. Oh! J'ai vu de si près les foules misérables, les cris, les chocs, l'affront aux têtes vénérables, tant de lâches grandis par les troubles civils, des juges qu'on eût dû juger, des prêtres vils, servant et souillant Dieu, prêchant pour, prouvant contre. J'ai tant vu la laideur que notre beauté montre, dans notre bien le mal, dans notre vrai le faux, et le néant passant sous nos arcs triomphaux, j'ai tant vu ce qui mord, ce qui fuit, ce qui ploie, que, vieux, faible et vaincu, j'ai désormais pour joie de rêver immobile en quelque sombre lieu. Là, saignant, je médite. Et, lors même qu'un dieu m'offrirait pour rentrer dans les villes la gloire, la jeunesse, l'amour, la force, la victoire, je trouve bon d'avoir un trou dans les forêts, car je ne sais pas trop si je consentirai. Fin de l'exilé satisfait. L'art d'être grand-père. Première partie. À Guernesey. 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père. De Victor Hugo. Première partie. À Guernesey. 2. Qu'est-ce que cette terre? Une tempête d'âme. Dans cette ombre où, nochés errants, nous n'abordâmes jamais qu'à des écueils, les prenant pour des ports, dans l'orage des cris, des désirs, des transports, des amours, des douleurs, des vœux, tas de nuées, dans les fuyants baisers de ces prostituées que nous nommons fortune, ambition, succès, devant Job qui, souffrant, dit « Qu'est-ce que je sais ?» et Pascal qui, tremblant, dit « Qu'est-ce que je pense ?» Dans cette monstrueuse et féroce dépense de pape, de César, de roi, que fait Satan ? En présence du sort tournant, son cabestan, par qui toujours, de là l'effroi des philosophes, sortent des mêmes flots, les mêmes catastrophes. Dans ce néant qui mord, dans ce chaos qui ment, ce que l'homme finit par voir distinctement, c'est, par-dessus nos deuils, nos chutes, nos descentes, la souveraineté des choses innocentes. Étant donné le cœur humain, l'esprit humain, notre hier ténébreux, notre obscur lendemain, toutes les guerres, tous les chocs, toutes les haines, notre progrès coupé d'un traînement de chaînes, partout quelques remords, même chez les meilleurs, et par les vents soufflant du fond des cieux en pleurs, la foule des vivants sans fin bouleversée, certes, il est salutaire et bon pour la pensée, sous l'entrecroisement de tant de noirs rameaux, de contempler parfois, à travers tous nos maux qui sont entre le ciel et nous comme des voiles, une profonde paix toute faite d'étoiles. C'est à cela que Dieu songeait quand il a mis les poètes auprès des berceaux endormis. Fin du poème. L'art d'être grand-père. Première partie, à Guernesey. Jeanne fait son entrée. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père, de Victor Hugo. Première partie, à Guernesey. Jeanne fait son entrée. Jeanne parle. Elle dit des choses qu'elle ignore. Elle envoie à la mer qui gronde, au bois sonore, à la nuée, aux fleurs, au nid, au firmament, à l'immense nature, un doux gazouillement. Tout un discours, profond peut-être, qu'elle achève par un sourire où flotte une âme, où tremble un rêve, murmure indistinct, vague, obscur, confus, brouillé. Dieu, le bon vieux grand-père, écoute émerveillé. Fin de Jeanne fait son entrée. L'art d'être grand-père. Première partie, à Guernesey. Victor cède Victus. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père, de Victor Hugo. Première partie, à Guernesey. Victor cède Victus. Je suis, dans notre temps de choc et de fureur, Belluaire, et j'ai fait la guerre aux empereurs. J'ai combattu la foule immonde des Sodomes, des millions de flots et des millions d'hommes ont rugi contre moi sans me faire céder. Tout le gouffre est venu m'attaquer et gronder, et j'ai livré bataille aux vagues écumantes, et sous l'énorme assaut de l'ombre et des tourmentes, je n'ai pas plus courbé la tête qu'un écueil. Je ne suis pas de ceux qu'effrayent un ciel en deuil, et qui, n'osant sonder les Styx et les Avernes, tremblent devant la bouche obscure des cavernes. Quand les tyrans lançaient sur nous, du haut des airs, leur noir tonnerre ayant des crimes pour éclair, j'ai jeté mon verre sombre à ces passants sinistres. J'ai traîné tous les rois avec tous leurs ministres, tous les faux dieux avec tous les principes faux, tous les trônes liés à tous les échafauds. L'erreur, le glaive infâme et le sceptre sublime, j'ai traîné tout cela pêle-mêle à l'abîme. J'ai devant les Césars, les princes, les géants de la force, debout sur l'amas des néants, devant tous ceux que l'homme adore, exècre, encense, devant les Jupiters de la toute-puissance, étaient 40 ans, fiers, indompté, triomphant. Et me voilà vaincu par un petit enfant. Fin de Victor cède Victus. L'art d'être grand-père, première partie, à Guernesey. L'autre. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père, de Victor Hugo, première partie, à Guernesey. L'autre. Viens, mon Georges. Ah, les fils de nos fils nous enchantent. Ce sont de jeunes voix matinales qui chantent. Ils sont dans nos logis lugubres le retour des roses, du printemps, de la vie et du jour. Leur rire nous étire une larme aux paupières, et de notre vieux seuil fait tressaillir les pierres. De la tombe entr'ouverte et des ans lourds et froids, leur regard radieux dissipe les effrois. Ils ramènent notre âme aux premières années. Ils font rouvrir en nous toutes nos fleurs fanées. Nous nous retrouvons doux, naïfs, heureux de rien. Le cœur serein s'emplit d'un vague aérien. En les voyant, on croit se voir soi-même éclore. Oui, devenir aïeul, c'est rentrer dans l'aurore. Le vieillard gai se mêle aux marmots triomphants. Nous nous rapetissons dans les petits-enfants. Et, calmés, nous voyons s'envoler dans les branches notre âme sombre, avec toutes ses âmes blanches. Fin de l'autre. L'art d'être grand-père. Première partie, à Guernesey. Georges et Jeanne. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père, de Victor Hugo. Première partie, à Guernesey. Georges et Jeanne. Moi, qu'un petit enfant rend tout à fait stupide, j'en ai deux, Georges et Jeanne. Et je prends l'un pour guide et l'autre pour lumière, et j'accours à leur voix, vu que Georges a 2 ans et que Jeanne a 10 mois. Leurs essais d'exister sont divinement gauches. On croit, dans leurs paroles où tremblent des ébauches, voir un reste de ciel qui se dissipe et fuit. Et moi qui suis le soir, et moi qui suis la nuit, moi dont le destin pâle et froid se décolore, j'ai l'attendrissement de dire « Ils sont l'aurore ». Leur dialogue obscur m'ouvre des horizons. Ils s'entendent entre eux, se donnent leur raison. Jugez comme cela disperse mes pensées. En moi, désirs, projets, les choses insensées, les choses sages, tout, à leur tendre lueur, tombe, et je ne suis plus qu'un bonhomme rêveur. Je ne sens plus la trouble et secrète secousse du mal qui nous attire et du sort qui nous pousse. Les enfants chancelants sont nos meilleurs appuis. Je les regarde, et puis je les écoute, et puis je suis bon, et mon cœur s'apaise en leur présence. J'accepte les conseils sacrés de l'innocence. Je fus toute ma vie ainsi. Je n'ai jamais rien connu, dans les deuils comme sur les sommets, de plus doux que l'oubli qui nous envahit l'âme devant les êtres purs d'où monte une humble flamme. Je contemple, en nos temps souvent noirs et ternis, ce point du jour qui sort des berceaux et des nids. Le soir, je vais les voir dormir. Sur leur front calme, je distingue, ébloui, l'ombre que font les palmes et comme une clarté d'étoiles à son lever. Et je me dis, à quoi peuvent-ils donc rêver? Georges songe au gâteau, aux beaux jouets étranges, aux chiens, aux coqs, aux chats. Et Jeanne pense aux anges. Puis au réveil, leurs yeux s'ouvrent, pleins de rayons. Ils arrivent, hélas, à l'heure où nous fuyons. Il jase. Parle-t-il? Oui. Comme la fleur parle à la source des bois. Comme leur père Charles, enfant, parlait jadis à leur tante Dédé. Comme je vous parlais, de soleil inondé. Ô mes frères, au temps où mon père, jeune homme, nous regardait jouer dans la caserne, à Rome, à cheval sur sa grande épée, et tout petit. Jeanne, qui dans les yeux a le myosotis, et qui, pour saisir l'ombre, entr'ouvrant ses doigts frêles, n'a presque pas de bras, ayant encore des ailes, Jeanne harangue, avec des chants où flotte un mot, Georges, beau comme un dieu qui serait un marmot. Ce n'est pas la parole, ô ciel bleu, c'est le verbe. C'est la langue infinie, innocente et superbe, que soupirent les vents, les forêts et les flots. Les pilotes, Jason, Palinure et Typhlos, entendaient la sirène, avec cette voix douce, murmurer l'hymne obscur que l'eau profonde émousse. C'est la musique éparse au fond du mois de mai qui fait que l'un dit « j'aime » et l'autre, hélas, « j'aimais ». C'est le langage vague et lumineux des êtres nouveau-nés que la vie attire à ses fenêtres et qui, devant avril, éperdu, hésitant, bourdonne à la vitre immense du printemps. Ces mots mystérieux que Jeanne dit à Georges, c'est l'idylle du cygne avec le rouge-gorge. Ce sont les questions que les abeilles font et que le lys naïf pose aux moineaux profonds. C'est ce dessous divin de la vaste harmonie, le chuchotement, l'ombre ineffable et bénie jasant, balbutiant des bruits de vision et peut-être donnant une explication. Car les petits enfants étaient hier encore dans le ciel et savaient ce que la terre ignore. Ô Jeanne, Georges, voix dont j'ai le cœur saisi, si les astres chantaient, ils bégayeraient ainsi. Leur front tourné vers nous, nous éclaire et nous dort. Oh, d'où venez-vous donc, inconnu qu'on adore? Jeanne a l'air étonnée, Georges a les yeux hardis. Il trébuche, encore ivre du paradis. Fin de Georges et Jeanne. L'art d'être grand-père. Première partie, à Guernesey. Parfois, je me sens pris d'horreur pour cette terre. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo. Première partie, à Guernesey. Parfois, je me sens pris d'horreur pour cette terre. Mon verre semble la bouche ouverte d'un cratère. J'ai le farouche chez moi que donne l'ouragan monstrueux au grand arbre. Mon cœur prend feu. Je sens tout ce que j'ai de marbre devenir lave en moi. Quoi? Rien de vrai. Le scribe a pour appui le reître. Toutes les robes, juges et vierges, femmes et prêtres, mentent ou mentiront. Le dogme boit du sang, l'autel bénit le crime. Toutes les vérités, groupes tristes et sublimes, ont la rougeur au front. La sinistre lueur des rois est sur nos têtes. Le temple est plein d'enfer, la clarté de nos fêtes obscurcit le ciel bleu. L'âme a le penchement d'un navire qui sombre, et les religions, à tâtons, ont dans l'ombre pris le démon pour Dieu. Oh, qui me donnera des paroles terribles? Oh, je déchirerai ces chartes et ces bibles, ces codes, ces corans. Je pousserai le cri profond des catastrophes, et je vous saisirai, sophistes, dans mes strophes, dans mes ongles, tyran. Ainsi, frémissant, pâle, indigné, je bouillonne. On ne sait quel essaim d'aigle noir tourbillonne dans mon ciel embrasé. Deuil, guerre, une Euménide en mon âme est éclose. Quoi? Le mal est partout. Je regarde une rose et je suis apaisé. Fin de. Parfois, je me sens pris d'horreur pour cette terre. L'art d'être grand-père, première partie à Guernesey. Laetitia Rerum. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, première partie à Guernesey. Laetitia Rerum. Tout est pris d'un frisson subit. L'hiver s'enfuit et se dérobe. L'année ôte son vieil habit. La terre met sa belle robe. Tout est nouveau. Tout est debout. L'adolescence est dans les plaines, la beauté du diable partout rayonne et se mire aux fontaines. L'arbre est coquet, parmi les fleurs, c'est à qui sera la plus belle. Toutes étalent leurs couleurs, et les plus laides ont du zèle. Le bouquet jaillit du rocher, l'air baise les feuilles légères, juin rit de voir s'endimancher le petit peuple des fougères. C'est une fête en vérité, fête où vient le chardon, ce rustre. Dans le grand palais de l'été, les astres allument le lustre. On fait les foins, bientôt les blés, le faucheur dort sous la cépée, et tous les souffles sont mêlés d'une senteur d'herbes coupées. Qui chante là? Le rossignol. Les chrysalides sont parties, le ver de terre a pris son vol et jeté le froc aux orties. La ragne sur l'eau fait des ronds. Ô ciel bleu, l'ombre est sous la treille. Le jonc tremble et les moucherons viennent vous parler à l'oreille. On voit rôder l'abeille à jeun. La guêpe court, le frelon guette. À tous ces buveurs de parfums, le printemps ouvre sa guinguette. Le bourdon, aux excès enclin, entre en chiffonnant sa chemise. Un œillet est un verre plein, un lys est une nappe mise. La mouche boit le vermillon et l'or dans les fleurs demi-closes. Et l'ivrogne est le papillon, et les cabarets sont les roses. De joie et d'extase on s'emplit. L'ivresse, c'est la délivrance. Sur aucune fleur on ne lit « Société de tempérance ». Le faste providentiel partout brille, éclate et s'épanche, et l'unique livre, le ciel, est par l'aube doré sur tranche. Enfant, dans vos yeux éclatants, je crois voir l'empyrée éclore. Vous riez comme le printemps, et vous pleurez comme l'aurore. Fin de Laetitia Rerum. L'art d'être grand-père, première partie à Guernesey. Je prendrai par la main les deux petits-enfants. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, première partie à Guernesey. Je prendrai par la main les deux petits-enfants. J'aime les bois où sont les chevreuils et les faons, où les cerfs tachetés suivent les biches blanches et se dressent dans l'ombre, effrayés par les branches. Car les fauves sont pleins d'une telle vapeur que le frais tremblement des feuilles leur fait peur. Les arbres ont cela de profond qu'ils vous montrent que l'Éden seul est vrai, que les cœurs s'y rencontrent, et que, hors les amours et les nids, tout est vain. Théocrite, souvent, dans le hallier divin, crut entendre marcher doucement la ménade. C'est là que je ferai ma lente promenade avec les deux marmots. J'entendrai tour à tour ce que Georges conseille à Jeanne, doux amour, et ce que Jeanne enseigne à Georges. En patriarche que mènent les enfants, je réglerai ma marche sur le temps que prendront leurs jeux et leurs repas, et sur la petitesse aimable de leurs pas. Ils cueilleront des fleurs, ils mangeront des mûres. Ô vaste apaisement des forêts, ô murmure, avril vient calmer tout, venant tout embaumer. Je n'ai point d'autre affaire, ici-bas, que d'aimer. Fin de « Je prendrai par la main les deux petits-enfants ». L'art d'être grand-père. Première partie à Guernesey. Printemps. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo. Première partie à Guernesey. Printemps. Tout rayonne, tout luit, tout aime, tout est doux. Les oiseaux semblent d'air et de lumière fous. L'âme dans l'infini croit voir un grand sourire. À quoi bon exiler, roi? À quoi bon proscrire? Proscrivez-vous l'été? M'exilez-vous des fleurs? Pouvez-vous empêcher les souffles, les chaleurs, les clartés, d'être là, sans joug, sans fin, sans nombre, et de me faire fête, à moi banni, dans l'ombre? Pouvez-vous m'amoindrir les grands flots haletants, l'océan, la joyeuse écume, le printemps jetant les parfums comme un prodigue en démence? M'ôter un rayon de ce soleil immense? Non. Et je vous pardonne. Allez, trônez, vivez, et tâchez d'être roi longtemps, si vous pouvez. Moi, pendant ce temps-là, je maraude et je cueille, comme vous un empire, un brin de chèvrefeuille, et je l'emporte, ayant pour conquête une fleur. Quand, au-dessus de moi, dans l'arbre, un querelleur, un mâle, cherche noise à sa douce femelle, ce n'est pas mon affaire, et pourtant je m'en mêle. Je dis « Paix là, messieurs les oiseaux, dans les bois. » Je les réconcilie avec ma grosse voix. Un peu de peur qu'on fait aux amants les rapproche. Je n'ai point de ruisseau, de torrent ni de roche. Mon gazon est étroit et tout près de la mer. Mon bassin n'est pas grand, mais il n'est pas amer. Ce coin de terre est humble et me plaît. Car l'espace est sur ma tête, et l'astre y brille, et l'aigle y passe, et le vaste boré y plane éperdument. Ce parterre modeste et ce haut firmament sont à moi, ces bouquets, ces feuillages, cette herbe même, et je sens croître en moi l'oubli superbe. Je voudrais bien savoir comment je m'y prendrai pour me souvenir, moi l'hôte de ces forêts, qu'il est quelqu'un, là-bas, au loin sur cette terre, qui s'amuse à proscrire et règne et fait la guerre, puisque je suis là, seul, devant l'immensité. Et puisqu'ayant sur moi le profond ciel d'été où le vent souffle avec la douceur d'une lyre, j'entends dans le jardin les petits enfants rire. Fin de printemps. L'art d'être grand-père, première partie à Guernesey. Fenêtres ouvertes, le matin, en dormant. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, première partie à Guernesey. Fenêtres ouvertes, le matin, en dormant. J'entends des voix. Lueur à travers ma paupière. Une cloche est en branle à l'église Saint-Pierre. Cri des baigneurs. Plus près, plus loin, non, par ici, non, par là. Les oiseaux gazouillent, Jeanne aussi. Georges l'appelle. Chant des coqs. Une truelle racle un toit. Des chevaux passent dans la ruelle. Grincement d'une faux qui coupe le gazon. Choc. Rumeur. Des couvreurs marchent sur la maison. Bruit du port. Sifflement des machines chauffées. Musique militaire arrivant par bouffées. Brouhaha sur le quai. Voix française. Merci. Bonjour. Adieu. Sans doute il est tard, car voici que vient tout près de moi chanter mon rouge-gorge. Vacarme de marteau lointain dans une forge. L'eau clapote. On entend haleter un steamer. une mouche entre. Souffle immense de la mer. Fin de Fenêtres ouvertes. Le matin, en dormant. L'art d'être grand-père, première partie à Guernesey. Un manque. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, première partie à Guernesey. Un manque. Pourquoi donc s'en est-il allé, le doux amour? Ils viennent un moment nous faire un peu de jour, puis partent. Ces enfants, que nous croyons les nôtres, sont à quelqu'un qui n'est pas nous. Mais les deux autres, tu ne les vois donc pas, vieillard? Oui, je les vois, tous les deux. Ils sont deux, ils pourraient être trois. Voici l'heure d'aller se promener dans l'ombre des grands bois, pleins d'oiseaux dont Dieu seul sait le nombre, et qui s'envoleront aussi dans l'inconnu. Il a son chapeau blanc, elle montre un pied nu. Tous deux sont côte à côte. On marche à l'aventure, et le ciel brille, et moi je pousse la voiture. Toute la plaine en fleurs a l'air d'un paradis. Le lézard court au pied des vieux saules, tandis qu'au bout des branches vient chanter le rouge-gorge. Mademoiselle Jeanne a 15 mois, et Georges en a 30. Il la garde, il est l'homme complet. Des filles comme ça font son bonheur. Il est dans l'admiration de ses jolis doigts roses, leur compare, en disant toutes sortes de choses, ses grosses mains à lui, qui vont avoir 3 ans. Et rit. Il montre Jeanne en route aux paysans. Ah, dame, il marche, lui. Cette mioche se traîne. Et Jeanne rit de voir Georges rire. Une reine sur un trône. C'est là Jeanne dans son panier. Elle est belle. Et le chêne en parle au marronnier. Et l'orme la salue et la montre à l'érable. Tant sous le ciel profond l'enfance est vénérable. Georges a le sentiment de sa grandeur. Il rit, mais il protège, et Jeanne a foi dans son esprit. Georges surveille avec un air assez farouche cet enfant qui, parfois, met un doigt dans sa bouche. Les sentiers sont confus, et nous nous embrouillons, comme tout le bois sombre est plein de papillons. Courons, dit Georges. Il veut descendre, Jeanne est gaie, avec eux je chancelle, avec eux je bégaye. Oh, l'adorable joie, et comme ils sont charmants, quel hymne auguste au fond de leur gazouillement. Jeanne voudrait avoir tous les oiseaux qui passent. Georges vit d'un pantin dont les ressorts se cassent, et médite. Et tous deux jasent. Leurs cris joyeux semblent faire partout dans l'ombre ouvrir des yeux. Georges, tout en mangeant des nèfles et des pommes, m'apporte son jouet. Moi qui connais les hommes mieux que Georges et qui sais les secrets du destin, je raccommode avec un fil son vieux pantin. Mon Georges, ne va pas dans l'herbe. Elle est trempée, et le vent berce l'arbre, et Jeanne sa poupée. On sent Dieu dans ce bois pensif, dont la douceur se mêle à la gaieté du frère et de la sœur. Nous obéissons, Jeanne et moi. Georges commande. La nourrice leur chante une chanson normande, de celle qu'on entend le soir sur les chemins. Et Georges bat du pied, et Jeanne bat des mains, et je m'épanouis à leur divin vacarme. Je ris. Mais vous voyez sous mon rire mes larmes, vieux arbres, n'est-ce pas? Et vous n'avez pas cru que j'oublierais jamais le petit disparu. Fin de Un manque. L'art d'être grand-père. Deuxième partie. Jeanne endormie. La sieste. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo. Deuxième partie. Jeanne endormie. la sieste. Elle fait au milieu du jour son petit somme, car l'enfant a besoin du rêve plus que l'homme. Cette terre est si laide, alors qu'on vient du ciel. L'enfant cherche à revoir Chérubin, Ariel, ses camarades, Puck, Titania, les fées, et ses mains, quand il dort, sont par Dieu réchauffées. Oh, comme nous serions surpris si nous voyions, au fond de ce sommeil sacré, plein de rayons, ces paradis ouverts dans l'ombre et ces passages d'étoiles qui font signe aux enfants d'être sages, ces apparitions, ces éblouissements. Donc, à l'heure où les feux du soleil sont calmants, quand toute la nature écoute et se recueille, vers midi, quand les nids se taisent, quand la feuille la plus tremblante oublie un instant de frémir, Jeanne a cette habitude aimable de dormir. Et la mère un moment respire et se repose, car on se lasse même à servir une rose. Ses beaux petits pieds nus, dont le pas est peu sûr, dorment, et son berceau contourne un vague azur, ainsi qu'une auréole entoure une immortelle, semble un nuage fait avec de la dentelle. On croit, en la voyant dans ce frais berceau-là, voir une lueur rose au fond d'un falbala. On la contemple, on rit, on sent fuir la tristesse, et c'est un astre ayant de plus la petitesse. L'ombre, amoureuse d'elle, a l'air de l'adorer. Le vent retient son souffle et n'ose respirer. Soudain, dans l'humble et chaste alcôve maternelle, versant tout le matin qu'elle a dans sa prunelle, elle ouvre la paupière, étend un bras charmant, agite un pied, puis l'autre, et si divinement que des fronts dans l'azur se penchent pour l'entendre. Elle gazouille. Alors, de sa voix la plus tendre, couvant des yeux l'enfant que Dieu fait rayonner, cherchant le plus doux nom qu'elle puisse donner à sa joie, à son ange en fleur, à sa chimère. « Te voilà réveillée, horreur !» lui dit sa mère. Fin de la sieste. L'art d'être grand-père. Troisième partie, la lune. 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo. Troisième partie, la lune. 1. Jeanne songeait, sur l'herbe assise, grave et rose. Je m'approchai. « Dis-moi si tu veux quelque chose, Jeanne. » Car j'obéis à ces charmants amours, je les guette, et je cherche à comprendre toujours tout ce qui peut passer par ces divines têtes. Jeanne m'a répondu. « Je voudrais voir des bêtes. » Alors je lui montrai dans l'herbe une fourmi. « Vois. » Mais Jeanne ne fut contente qu'à demi. « Non. » « Les bêtes, c'est gros, » me dit-elle. « Leur rêve, c'est le grand. L'océan les attire à sa grève, les berçant de son chant rauque, et les captivant par l'ombre et par la fuite effrayante du vent. Ils aiment l'épouvante, il leur faut le prodige. « Je n'ai pas d'éléphant sous la main, » répondis-je. « Veux-tu quelque autre chose ?» « Oh, Jeanne, on te le doit. Parle. » Alors Jeanne, au ciel, leva son petit doigt. « Ça, » dit-elle, « c'était l'heure où le soir commence. Je vis à l'horizon surgir la lune immense. » Fin de 1. L'art d'être grand-père. Troisième partie, la lune, chose du soir. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, troisième partie. La lune, chose du soir. Le brouillard est froid, la bruyère est grise. Les troupeaux de bœufs vont aux abreuvoirs. La lune, sortant des nuages noirs, semble une clarté qui vient par surprise. Je ne sais plus quand, je ne sais plus où, Maître Yvon soufflait dans son biniou. Le voyageur marche et la lande est brune. Une ombre est derrière, une ombre est devant. Blancheur au couchant, lueur au levant. Ici crépuscule et là clair de lune. Je ne sais plus quand, je ne sais plus où. Maître Yvon soufflait dans son biniou. La sorcière assise allonge sa lippe. L'araignée accroche au toit son filet. Le lutin reluit dans le feu follet comme un pistil d'or dans une tulipe. Je ne sais plus quand, je ne sais plus où, Maître Yvon soufflait dans son biniou. On voit sur la mer des chasse-marées. Le naufrage guette un mât frissonnant. Le vent dit « demain », l'eau dit « maintenant ». Les voix qu'on entend sont désespérées. Je ne sais plus quand, je ne sais plus où, Maître Yvon soufflait dans son biniou. Le coche qui va d'Avranches à Fougères fait claquer son fouet comme un vif éclair. Voici le moment où flottent dans l'air tous ces bruits confus que l'ombre exagère. Je ne sais plus quand, je ne sais plus où, Maître Yvon soufflait dans son biniou. Dans les bois profonds brillent des flambées. Un vieux cimetière est sur un sommet. Où Dieu trouve-t-il tout ce noir qu'il met dans les cœurs brisés et les nuits tombées? Je ne sais plus quand, je ne sais plus où, Maître Yvon soufflait dans son biniou. Des flaques d'argent tremblent sur les sables. L'or frais est au bord des talus crayeux. Le pâtre, à travers le vent, suit des yeux le vol monstrueux et vague des diables. Je ne sais plus quand, je ne sais plus où, Maître Yvon soufflait dans son biniou. Un panache gris sort des cheminées. Le bûcheron passe avec son fardeau. On entend, parmi le bruit des cours d'eau, des frémissements de branches traînées. Je ne sais plus quand, je ne sais plus où, Maître Yvon soufflait dans son biniou. La faim fait rêver les grands loups moroses. La rivière court, le nuage fuit. Derrière la vitre où la lampe luit, les petits enfants ont des têtes roses. Je ne sais plus quand, je ne sais plus où, Maître Yvon soufflait dans son biniou. Fin de Chose du soir. L'art d'être grand-père. Troisième partie. La lune. Ah, vous voulez la lune? Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo. Troisième partie. La lune. Ah, vous voulez la lune?
Ah, vous voulez la lune?
Où?
Dans le fond du puits?
Non, dans le ciel.
Eh bien, essayons.
Je ne puis.
Et c'est ainsi toujours. Cher petit, il vous passe par l'esprit de vouloir la lune, et dans l'espace j'étends mes mains, tâchant de prendre au vol Phébé. L'adorable hasard d'être aïeul est tombé sur ma tête et m'a fait une douce fêlure. Je sens en vous voyant que le sort put m'exclure du bonheur, sans m'avoir tout à fait abattu. Mais causons. Voyez-vous?
Vois-tu, Georges?
Vois-tu, Jeanne?
Dieu nous connaît, et sait ce qu'ose faire un aïeul, car il est lui-même un peu grand-père. Le bon Dieu, qui toujours contre nous se défend, craint ceci. Le vieillard qui veut plaire à l'enfant, il sait que c'est ma loi qui sort de votre bouche, et que j'obéirai. Il ne veut pas
qu'on touche aux étoiles, et c'est pour en être bien sûr qu'il les accroche aux clous les plus hauts de l'azur. Fin de A. Ah, vous voulez la lune ? L'art d'être grand-père, troisième partie, la lune. Oh, comme ils sont goulus. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père, de Victor Hugo, troisième partie, la lune. Oh, comme ils sont goulus. Oh, comme ils sont goulus, dit la mère parfois. Il faut leur donner tout, les cerises des bois, les pommes du verger, les gâteaux de la table. S'ils entendent la voix des vaches dans les tables, du lait, vite! Et leurs cris sont comme une forêt de bondis quand un sac de bonbons apparaît. Les voilà maintenant qui réclament la lune. Pourquoi pas? Le néant des géants m'importune. Moi, j'admire, ébloui, la grandeur des petits. Ah! L'âme des enfants a de forts appétits. Certes, et je suis pensif devant cette gourmande qui voit un univers dans l'ombre et le demande. La lune, pourquoi pas, vous dis-je. Eh bien, après? Pardieu, si je l'avais, je la leur donnerais. C'est vrai, sans trop savoir ce qu'ils en pourraient faire. Oui, je leur donnerais, lune, ta sombre sphère, ton ciel, d'où Swedenborg n'est jamais revenu. Ton énigme, ton puits sans fond, ton inconnu. Oui, je leur donnerai, en disant, soyez sages. Ton masque obscur qui fait le guet dans les nuages, tes cratères tordus par de noirs aquilons, tes solitudes d'ombre et d'oubli, tes vallons, peut-être heureux, peut-être affreux, Éden ou bagne, lune, et la vision de tes pâles montagnes. Oui, je crois qu'après tout, des enfants à genoux sauraient mieux se servir de la lune que nous. Ils y mettraient leurs vœux, leur espoir, leurs prières. Ils laisseraient mener par cette aventurière leur petit cœur pensif vers le grand Dieu profond. La nuit, quand l'enfant dort, quand ses rêves s'en vont, certes, ils vont plus loin et plus haut que les nôtres. Je crois aux enfants comme on croyait aux apôtres. Et quand je vois ces chers petits êtres sans fiel et sans peur désirer quelque chose du ciel, je le leur donnerai si je l'avais. La sphère que l'enfant veut doit être à lui s'il la préfère. D'ailleurs, n'avez-vous rien au-delà de vos droits? Oh, je voudrais bien voir, par exemple, les rois s'étonner que des nains puissent avoir un monde. Oui, je vous donnerai, ange à tête blonde, si je pouvais, à vous qui régnez par l'amour, ces univers baignés d'un mystérieux jour, conduits par des esprits que l'ombre a pour ministres, et l'énorme rondeur des planètes sinistres. Pourquoi pas? Je me fie à vous, car je vous vois, et jamais vous n'avez fait de mal. Oui, parfois, en songeant à quel point c'est grand, l'âme innocente, quand ma pensée au fond de l'infini s'absente, je me dis dans l'extase et dans l'effroi sacré que, peut-être, là-haut, il est, dans l'ignoré, un Dieu supérieur au Dieu que nous rêvâmes, capable de donner des astres à des âmes. Fin de O, comme ils sont goulus. L'art d'être grand-père. Quatrième partie, le poème du jardin des plantes. Le comte de Buffon fut bonhomme. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo. Quatrième partie, le poème du jardin des plantes. Le comte de Buffon fut bonhomme. Le comte de Buffon fut bonhomme. Il créa ce jardin imité d'Évandre et de Réa et plein d'ours plus savants que ceux de la Sorbonne, afin que Jeanne y puisse aller avec sa bonne. Buffon avait prévu Jeanne, et je lui sais gré de s'être dit qu'un jour Paris, un petit gré, complétant ses bourgeois par une variante, la bête enchanterait cette âme souriante. Les enfants ont des yeux si profonds que parfois ils cherchent vaguement la vision des bois. Et Buffon paternel, c'est ainsi qu'il rachète sa phrase sur laquelle a traîné sa manchette, pour les marmots, de qui les anges sont jaloux, a fait ce paradis suave, orné de loups. J'approuve ce Buffon. Les enfants, purs visages, regardent l'invisible et songent, et les sages tâchent toujours de plaire à quelqu'un de rêveur. L'été, dans ce jardin, montre de la ferveur. C'est un Éden où juin rayonne, où les fleurs luisent, où l'ours bougonne, et Jeanne et Georges m'y conduisent. C'est du vaste univers un raccourci complet. Je vais dans ce jardin parce que cela plaît à Jeanne et que je suis contre elle sans défense. J'y vais étudier deux gouffres, Dieu, l'enfance, le tremblant nouveau-né, le créateur flagrant, l'infiniment charmant et l'infiniment grand. La même chose au fond, car c'est la même flamme qui sort de l'astre immense et de la petite âme. Je contemple, au milieu des arbres de Buffon, le bison trop bourru, le babouin trop bouffon, des bosses, des laideurs, des formes peu choisies, et j'apprends à passer à Dieu ses fantaisies. Dieu, n'en déplaise aux prêtres, aux bonzes, aux caloyers, est capable de tout, lui qui fait balayer le bon goût, ce ruisseau, par Nisard, ce concierge, livre au singe excessif la forêt, cette vierge, et permet à Dupin de ressembler au chien. Pauvre chien! Selon l'Inde et les manichéens, Dieu doublé du démon expliquerait l'énigme. Le paradis ayant l'enfer pour borborygme, la providence un peu servante d'Ananké, l'infini mal rempli par l'univers manqué, le mal faisant toujours au bien quelque rature, telle serait la loi de l'aveugle nature. De là, les contresens de la création. Dieu, certes, a des écarts d'imagination. Il ne sait pas garder la mesure. Il abuse de son esprit jusqu'à faire loi, il abuse. Il ignore, auteur fauve et sans frein ni cordeau, ce point juste où la harpe arrête Colardo. Il se croit tout permis. Malheur à quelle limite. Il n'a pas de frontières, il n'a pas de limite. Et fait pousser l'ivraie au beau milieu du blé, sous prétexte qu'il est l'immense et l'étoilé. Il a d'affreux vautours qui nous tombent des nues. Il nous impose un tas d'inventions cornues, le bouc, l'auroch, l'isard et le colimaçon. Il blesse le bon sens, il choque la raison, il nous raille, il nous fait avaler la couleuvre. Au moment où, content, examinant son œuvre, rendant pleine justice à tant de qualités, nous admirons l'œil d'or des tigres tachetés, le cygne, l'antilope, à la prunelle bleue, la constellation qu'un paon a dans sa queue. D'une cage insensée, il tire le verrou, et voilà qu'il nous jette au nez le kangourou. Dieu défait et refait, ride, éborgne, essorille, exagère le nègre, hélas jusqu'aux gorilles, fait des taupes et fait des lynx, se contredit, mêle dans les halliers l'histrion au bandit, le mandrille au jaguar, le perroquet à l'aigle, lie à la parodie insolente et sans règle l'épopée, et les laisse errer, toutes les deux, sous l'âpre clair-obscur des branchages hideux. Si bien qu'on ne sait plus s'il faut trembler ou rire, et qu'on croit voir rôder, dans l'ombre que déchire tantôt le rayon d'or, tantôt l'éclair d'acier, un spectre qui parfois avorte en grimacier. Moi, je n'exige pas que Dieu toujours s'observe. Il faut bien tolérer quelques excès de verve chez un si grand poète, et ne point se fâcher si celui qui nuance une fleur de péché et courbe l'arc-en-ciel sur l'océan qu'il dompte, après un colibri nous donne un mastodonte. C'est son humeur à lui d'être de mauvais goût, d'ajouter l'hydre au gouffre et le ver à l'égout, d'avoir en toute chose une stature étrange, et d'être un Rabelais, d'où sort un Michel-Ange. C'est Dieu. Moi, je l'accepte. Et quant aux nouveau-nés, de même. Les enfants ne nous sont pas donnés pour avoir en naissant les façons du grand monde. Les petits en maillot, chez qui la sève abonde, poussent l'impolitesse assez loin quelquefois. J'en conviens. Et parmi les cris, les pas, les voix, les ours et leurs cornacs, les marmots et leurs mères, dans ces réalités semblables aux chimères, ébahis par le monstre et le mioche, assourdis comme par la rumeur d'une ruche à midi, sentant qu'à force d'être aïeul on est apôtre, questionné par l'un, escaladé par l'autre, pardonnant aux bambins le bruit, la fiente au nid et le rugissement aux bêtes, je finis par ne plus être, au fond du grand jardin sonore, qu'un bonhomme attendri par l'enfance et l'aurore. Aimant ce double feu, si plaisant, si chauffant, et pas moins indulgent pour Dieu que pour l'enfant. Fin de Le comte de Buffon fut bonhomme. L'art d'être grand-père. Quatrième partie. Le poème du jardin des plantes. Les bêtes, cela parle. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, quatrième partie, le poème du jardin des plantes. Les bêtes, cela parle. Les bêtes, cela parle. Et Dupont de Nemours les comprend. Chants et cris, gaieté, colère, amour. C'est dans Perrault un fait, dans Homère un prodige. Phèdre prend leurs paroles au vol et la rédige. La fontaine, dont l'herbe épaisse et le genêt rodé, guettant, rêvant, et les espionner. Ésope, ce songeur bossu comme le Pinde, les entendait en Grèce, et Pilpaï dans l'Inde. Les clairs étangs le soir offraient leur noir jargon à monsieur Florian, officier de dragon. Et l'âpre Ézéchiel, l'affreux prophète chauve, homme fauve, écoutait parler la bête fauve. Les animaux naïfs dialoguent entre eux. Et toujours, que ce soit le hibou ténébreux, l'ours qu'on entend gronder, l'âne qu'on entend braire, ou l'oie apostrophant le dindon, son grand frère, ou la guêpe insultant l'abeille sur l'Ibla, leur bêtise à l'esprit de l'homme ressembla. Fin de Les bêtes, cela parle. L'art d'être grand-père, quatrième partie, le poème du jardin des plantes. Ce que dit le public. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, quatrième partie, le poème du jardin des plantes. Ce que dit le public. 5 ans.
Les lions, c'est des loups.
6 ans. C'est très méchant, les bêtes.
5 ans.
Oui.
6 ans.
Les petits oiseaux, ce sont des malhonnêtes. Ils sont des sales.
5 ans.
Oui.
6 ans, regardant les serpents.
Les serpents.
5 ans, les examinant. C'est en peau.
6 ans. Prends garde au singe, il va te prendre ton chapeau.
5 ans, regardant le tigre.
Encore un loup.
6 ans.
Viens voir l'ours avant qu'on le couche.
5 ans, regardant l'ours.
Joli.
6 ans.
Ça grimpe.
5 ans, regardant l'éléphant.
Il a des cornes dans la bouche.
6 ans.
Moi, j'aime l'éléphant. C'est gros.
7 ans, survenant et les arrachant à la contemplation de l'éléphant.
Allons, venez. Vous voyez bien qu'il va vous battre avec son nez.
Fin de Ce que dit le public.
L'art d'être grand-père. Quatrième partie, le poème du jardin des plantes. À Georges.
Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo. Quatrième partie, le poème du jardin des plantes à Georges. Mon doux Georges, viens voir une ménagerie quelconque, chez Buffon, au cirque, n'importe où. Sans sortir de Lutèce, allons en Assyrie, et sans quitter Paris, partons pour Tombouctou. Viens voir les léopards de Tyr, les gypaètes, l'ours grondant, le boa formidable sans bruit, le zèbre, le chacal, l'once et ses deux poètes, l'aigle ivre de soleil, le vautour plein de nuit. Viens contempler le lynx sagace, l'amphisbène à qui Job comparait son faux ami Séphère, et l'obscur tigre noir, dont le masque d'ébène a deux trous flamboyants par où l'on voit l'enfer. Voir de près l'oiseau fauve et le frisson des ailes, c'est charmant. Nous aurons, sous de très sûrs abris, le spectacle des loups, des jaguars, des gazelles et l'éblouissement divin des colibris. Sortons du bruit humain. Viens au jardin des plantes. Penchons-nous à travers l'ombre où nous étouffons, sur les douleurs d'en bas vaguement appelantes et sur les pas confus des inconnus profonds. L'animal, c'est de l'ombre errant dans les ténèbres. On ne sait s'il écoute, on ne sait s'il entend. Il a des cris hagards, il a des yeux funèbres. Une affirmation sublime en sort pourtant. Nous qui régnons, combien de choses inutiles nous disons, sans savoir le mal que nous faisons. Quand la vérité vient, nous lui sommes hostiles, et contre la raison nous avons des raisons. Corbière à la tribune, et Frayssinous en chair sont fort inférieurs à la bête des bois. L'âme dans la forêt songe et se laisse faire. Je doute dans un temple, et sur un mont je crois. Dieu par les voies de l'ombre obscurément se nomme. Nul Quirinal ne vaut le fauve Pélion. Il est bon, quand on vient d'entendre parler l'homme, d'aller entendre un peu rugir le grand lion. Fin de À Georges. L'art d'être grand-père. Quatrième partie, le poème du jardin des plantes. Encore Dieu, mais avec des restrictions. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo. Quatrième partie, le poème du jardin des plantes. Encore Dieu, mais avec des restrictions. Quel beau lieu! Là le cèdre avec l'orme chuchote, l'âne est lyrique et semble avoir vu Don Quichotte. Le tigre en cage a l'air d'un roi dans son palais, les pachydermes sont effroyablement laids, et puis c'est littéraire. On rêve à des idylles de Viennet en voyant bâiller les crocodiles. Là, pendant qu'au babouin la singesse se vend, pendant que le baudet contemple le savant et que le vautour fait au hibou bon visage, certes c'est un emploi du temps digne d'un sage de s'en aller songer dans cette ombre, parmi ces arbres pleins de nids où tout semble endormi et veille, où le refus consent, où l'amour lutte, et d'écouter le vent, ce doux joueur de flûte. Apprenons, laissons faire, aimons, les cieux sont grands, et devenons savants et restons ignorants. Soyons sous l'infini des auditeurs honnêtes, rien n'est muet ni sourd, voyons le plus de bêtes que nous pouvons, tirons parti de leurs leçons, parce qu'autour de nous tout rêve, nous pensons. L'ignorance est un peu semblable à la prière. L'homme est grand par devant et petit par derrière. C'est d'Euclide à Newton, de Job à Réaumur, un indiscret qui veut voir par-dessus le mur. Et la nature, au fond très moqueuse,
paraphe notre science avec le cou de la girafe.
Tâchez de voir, c'est bien. Épiez.
Notre esprit pousse notre science à guetter.
Dieu sourit, vieux malin.
Je l'ai dit, Dieu prête à la critique.
Il n'est pas sobre, il est débordant, frénétique, inconvenant.
Ici le nain, là le géant, tout à la fois.
Énorme.
Il manque de néant.
Il abuse du gouffre, il abuse du prisme.
Tout, c'est trop.
Son soleil va jusqu'au gongorisme,
lumière outrée.
Oui, Dieu vraiment est inégal.
Ici la Sibérie et là le Sénégal.
Et partout l'antithèse.
Il faut qu'on s'y résigne.
S'il fait noir le corbeau, c'est qu'il fit blanc le cygne.
Aujourd'hui, Dieu nous gèle, hier il nous chauffait.
Comme à l'Académie, on lui dirait son fait.
Que nous veut la comète?
À quoi sert le bolide?
Quand on est un pédant sérieux et solide, plus on est ébloui, moins on est satisfait.
La férule à batteux, le sabre à galifet, ne tolère pas Dieu sans quelque impatience.
Dieu trouble l'ordre.
Il met sur les dents la science.
À peine a-t-on fini qu'il faut recommencer.
Il semble que l'on sent dans la main vous glisser, on ne sait quel serpent tout écaillé d'aurore.
Dès que vous avez dit « assez »,
il dit « encore ».
Ce démagogue donne aux pauvres autant de fleurs qu'aux riches.
Il ne sait pas se borner.
Ses couleurs, ses rayons, ses éclairs, c'est plus qu'on ne souhaite.
Ah, tout cela fait mal aux yeux, dit la chouette.
Et la chouette, c'est la sagesse.
Il est sûr que Dieu taille à son gré le monde en plein azur.
Il mêle l'ironie à son tonnerre épique.
Si l'on plane, il foudroie,
et si l'on broute, il pique.
Je ne m'étonne pas que Planche eût l'air piqué.
Le vent, voix sans raison, sorte de bruit manqué, sans jamais s'expliquer et sans jamais conclure, rabâche,
et l'océan n'est pas exempt d'enflure.
Quant à moi, je serai, j'en fais ici l'aveu, curieux de savoir ce que dirait de Dieu, du monde qu'il régit, du ciel qu'il exagère, de l'infini sinistre et confuse étagère, de tout ce que ce Dieu prodigue, des amas d'étoiles, de tout genre et de tous les formats, de sa façon d'emplir d'astres le télescope, Nonote et Baculard, dans le café Procope.
Fin de Encore Dieu, mais avec des restrictions.
L'art d'être grand-père, quatrième partie, le poème du jardin des plantes. À Jeanne. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, quatrième partie, le poème du jardin des plantes. À Jeanne.
Je ne te cache pas que j'aime aussi les bêtes.
Cela t'amuse, et moi cela m'instruit.
Je sens que ce n'est pas pour rien, quand ces farouches têtes, Dieu met le clair-obscur des grands bois frémissants.
Je suis le curieux qui, né pour croire et plaindre, sonde, en voyant l'aspic sous des roses rampants, les sombres lois qui font que la femme doit craindre le démon quand la fleur n'a pas peur du serpent.
Pendant que nous donnons des ordres à la terre, roi copiant le singe et par lui copier, doutant s'il est notre œuvre ou s'il est notre père, tout en bas, dans l'horreur fatale, sous nos pieds, on ne sait quel noir monde étonné nous regarde et songe, et sous un joug, trop souvent odieux, nous courbons l'humble monstre et la brute hagarde qui, nous voyant démons, nous prennent pour des dieux.
Oh, que d'étranges lois, quel tragique mélange!
Voit-on le dernier fait, sait-on le dernier mot?
Quel spectre peut sortir de Vénus et quel ange peut naître dans le ventre affreux de Béhémoth?
Transfiguration, mystère, gouffre et cime.
l'âme rejettera le corps, sombre haillon. La créature abjecte un jour sera sublime, l'être qu'on hait chenille, on l'aime papillon. Fin de À Jeanne.
Grand Canyon University, an affordable private Christian university, is one of the largest and fastest-growing universities in the country, offering more than 270 programs online. In addition to federal grants and aid, GCU's online students received nearly $130 million in institutional scholarships in 2022. Find your purpose at Grand Canyon University. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu/myoffer to see the scholarships you may qualify for.